Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, déclare ce soir Donald Trump, une reconnaissance officielle américaine qui déclenche une tempête diplomatique. Dans ce journal, les explications de Grégory Phillips à Washington et le commentaire de notre invité Alain Dikoff, directeur du Centre de recherche internationale de Sciences Po. La visite d'Emmanuel Macron en Algérie, marquée par une parole décomplexée. « Vous n'avez jamais connu la colonisation, qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça ?» Voilà la réponse du chef de l'État à un jeune Algérien qui l'interrogeait sur le passé colonial de la France. Reportage dans cette édition. À la fin de ce journal, nous reviendrons bien sûr sur la disparition de Johnny Hallyday. Mathieu Culeron évoquera quelques-uns des 800 auteurs qui ont composé les chansons de l'idole des jeunes. C'est une décision historique et lourde de conséquences pour la diplomatie américaine. Donald Trump vient de reconnaître officiellement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le président américain qui ordonne à son administration de préparer le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv dans la ville sainte. Mais il ne précise pas le calendrier. On retrouve en direct de Washington notre correspondant Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, avec cette reconnaissance de Jérusalem, Donald Trump tient l'une de ses promesses de campagne.
Oui, et il aura fallu 11 minutes de discours à Donald Trump dans le salon diplomatique de la Maison-Blanche pour présenter ce qu'il nomme une nouvelle approche du conflit israélo-palestinien. Et cette approche, eh bien, elle tient en quelques mots. Écoutez.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital.
Voilà, il est temps de reconnaître officiellement que Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est donc un revirement de la politique américaine dans la région. Pour le président des États-Unis, il s'agit surtout de reconnaître une réalité de fait, de terrain, car, dit Trump, c'est à Jérusalem que se trouve le siège du gouvernement israélien, la résidence du Premier ministre et la plupart des ministères. Donald Trump confirme également, vous l'avez dit, qu'il a demandé à son département d'État de préparer le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem, mais ça prendra plusieurs années car il faudra construire un nouveau bâtiment susceptible d'accueillir un millier de diplomates américains. Trump enfin assure que les États-Unis restent engagés dans le processus de paix, qu'ils feront tout pour parvenir à une solution à deux États, mais avec cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne, il devient très difficile, voire impossible pour les États-Unis de se poser comme médiateur dans ce conflit vis-à-vis notamment de l'autorité palestinienne.
Grégory Phillips, merci. Sans surprise, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue une décision qualifiée d'historique tout en réaffirmant l'engagement de l'État hébreu à maintenir le statu quo sur les lieux saints à Jérusalem. À l'opposé, côté palestinien, le président Mahmoud Abbas dénonce une décision déplorable qui disqualifie les États-Unis dans leur rôle de sponsor du processus de paix. Jérusalem est la capitale éternelle de l'État de Palestine, a ajouté Mahmoud Abbas. À Gaza, le Hamas menace. La décision de Trump ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. Voilà ce qu'affirme le mouvement islamiste. On retiendra enfin cette réaction critique d'Emmanuel Macron. Le président français qualifie de regrettable la décision américaine et appelle à éviter à tout prix les violences. Invité de ce journal, Alain Dikoff, directeur de recherche au CNRS, directeur du CERI Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir.
Alain Dikoff, avec cette annonce américaine, est-ce qu'on peut parler d'un parti pris pro-israélien clairement assumé chez Donald Trump ?
Parti pris, pas nécessairement. Je dirais que c'est aussi la conséquence finalement d'une décision qui n'était pas la sienne, hein, c'est-à-dire d'un vote du Congrès américain qui date de 1995 et qui avait été, il l'a d'ailleurs dit dans son discours très clairement, endossé aussi bien par les républicains que par les démocrates. Donc, en ce sens-là, il rend possible finalement l'exécution d'une loi qui avait été votée il y a 22 ans. Alors, bien sûr, ce qu'il fait, c'est que contrairement à ses prédécesseurs, il a franchi le pas, c'est-à-dire que l'exécutif a cette fois-ci considéré que il fallait reconnaître, comme il l'a dit lui-même, la réalité sur le terrain, c'est-à-dire que de fait, indéniablement, pour les Israéliens, en tous les cas, Jérusalem est leur capitale, et ce, depuis 1949. Ce qui leur manquait, et ce qui leur a toujours manqué, et ce que Trump, ici, leur donne, c'est la reconnaissance internationale.
Est-ce que cette décision de Trump répond quelque part aux attentes de son électorat aux États-Unis ?
Alors, Évidemment, une partie de son électorat, c'est très clair, c'est-à-dire à la fois les chrétiens évangéliques, qu'il faut jamais oublier. Une partie, bien évidemment, du lobby pro-israélien, et en particulier l'AIPAC, devant lequel il s'était exprimé très très fortement cette année. En même temps, il faut aussi reconnaître que cette question de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et n'est pas l'apanage des seuls républicains. Une bonne partie des démocrates sont sur la même position, même s'il est très vraisemblable que si Hillary Clinton avait été au pouvoir, elle aurait en fait poursuivi la politique qui avait été mise en œuvre depuis 1995, c'est-à-dire n'aurait pas accepté la mise à exécution de la loi de 95.
C'est tout de même un risque diplomatique majeur pour Trump parce que, notamment en Europe, personne ne soutient cette décision américaine concernant Jérusalem.
Un risque dans le sens où, oui, il risque de se retrouver assez seul dans cette aventure, certainement très peu suivi, en tous les cas, par les grands États. On ne peut pas exclure, en revanche, que quelques petits États suivent le mouvement et commencent à s'installer à Jérusalem. Et donc, en ce sens-là, peut-être progressivement, que la reconnaissance internationale de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël pourra au moins progressivement croître, au moins, disons, pour certains États, je dirais, mineurs. Évidemment, le blocage pour les États européens et autres sera beaucoup plus important et en effet, les Américains risquent finalement d'être quand même assez seuls. Mais quand même, c'est une puissance évidemment qui compte.
Alain Dikoff, pour le monde arabe, Jérusalem, c'est un symbole politique ou religieux ou bien les deux à la fois ?
Oh ben c'est les deux, bien évidemment, puisque quand même le consensus sur lequel on croyait qu'il y avait une sorte d'accord au moins implicite depuis 1993-94 avec les accords d'Oslo, c'est que s'il fallait arriver à une solution, c'était une solution où Jérusalem aurait un statut particulier et ce statut particulier conduirait finalement au fait que ça devienne la capitale, une double capitale finalement, hein, le secteur ouest étant la capitale de l'État d'Israël et le secteur Est, la capitale de l'État palestinien, a créé. Là, évidemment, avec une décision de cette nature, même si Trump a été, en ce sens-là, très prudent, il a dit très clairement que le reconnaître du côté américain, le fait que Jérusalem était la capitale d'Israël, n'impliquait rien en ce qui concerne les frontières ni la souveraineté. Donc, quelque part, il a quand même laissé ouvert, en tous les cas, théoriquement, la possibilité que cette ville devienne la capitale de deux États, mais évidemment, il avantage très clairement aujourd'hui les Israéliens, qui en plus sont en position de force, puisque c'est quand même eux qui contrôlent la situation sur le terrain.
Quelles sont les marges de manœuvre du monde musulman pour s'opposer à cette décision de Donald Trump ?
Je pense qu'ils sont en fait assez limités, c'est-à-dire que il est possible qu'il y ait des manifestations ici et là, à commencer en Palestine même et au-delà dans le monde arabe, voire dans le monde musulman, mais les capacités véritablement de pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui bloquerait de façon sérieuse les États-Unis me semble non existante, parce qu'en même temps les États arabes ont besoin des États-Unis, l'Arabie Saoudite pour commencer, l'Égypte aussi. Ce monde arabe est en plus, comme nous le savons, plus divisé que jamais. Donc je vois assez mal ce qu'il pourrait faire concrètement pour finalement s'opposer d'une façon active à cette décision. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle Trump l'a prise, précisément, parce qu'il sent que la situation finalement est assez mûre pour le faire aujourd'hui, alors que ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué il y a 10 ans.
Alain Dikoff, directeur du Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Un président français en visite en Algérie n'échappe jamais au passé colonial de la France. Emmanuel Macron en a fait l'expérience aujourd'hui à Alger, mais tout comme au Burkina Faso la semaine dernière, le chef de l'État a choisi de tenir un discours décomplexé. Illustration ce matin avec ce bain de foule inédit dans les rues de la capitale algérienne. Emmanuel Macron veut tourner la page de la colonisation et il l'a fait savoir vertement à ses interlocuteurs. C'est un reportage de notre envoyée spéciale Julie-Marie Lecomte.
C'est quasiment devenu une habitude. d'habitude, Emmanuel Macron bataillant presque avec les services de sécurité pour se précipiter dans la foule, sourire offert et main tendue.
Comment allez-vous ?
Monsieur le Président, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Et on n'est pas vos ennemis, au contraire.
Mais je sais bien.
Nous sommes rue Belle-Midi, l'ancienne rue d'Isly, celle de la fusillade de 62. L'armée avait ouvert le feu sur des civils partisans de l'Algérie française. Emmanuel Macron descend de voiture à la Grande Poste, bâtiment colonial. Il remonte à pied jusqu'au Milk Bar, 11 morts dans un attentat du FLN, quand deux hommes jeunes l'interpellent sur les crimes de la colonisation.
J'ai déjà parlé, mais... Vous les avez connus, vous ?
Vous avez quel âge ?
J'ai 26 ans.
Mais vous avez jamais connu la colonisation ? Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça ?
Non, j'ai pas
vous,
connu.
Votre génération, elle doit regarder l'avenir.
Monsieur, je ne l'ai pas connu, mais mes grands-parents l'ont connu.
Mais je sais. Mais c'est pour ça que moi, je dis, on doit reconnaître. Mais la jeunesse algérienne, elle ne peut pas toujours regarder son passé. Il faut que votre génération, elle se projette devant. Arrêtez. Votre génération, elle doit construire. Ce que vous vivez au quotidien, c'est pas le passé d'avant 62 qui l'a fait.
Est-ce qu'on déchire la page ou bien on tourne la page ?
Il faut pas être prisonnier de l'histoire.
C'est une page d'avenir que je viens ouvrir, répète Emmanuel Macron face aux journalistes. Derrière lui, des femmes au balcon jettent des pluies de fleurs de papier. Cette jeunesse doit regarder différemment la France et peut-être aussi les promesses de son propre pays, ajoute-t-il.
Julie Marie Lecomte à Alger avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. C'est officiel, Vladimir Poutine sera candidat à sa réélection pour un quatrième mandat en mars prochain. Le président russe l'a annoncé aujourd'hui lors d'une rencontre avec des ouvriers d'une usine de Nijni Novgorod. Tous les sondages donnent Poutine vainqueur de la présidentielle russe. Son principal opposant, Alexei Navalny, n'est pas du tout sûr de pouvoir se présenter en raison des multiples procédures judiciaires dont il fait l'objet aujourd'hui.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie.
Les gens l'appelaient l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, qui est parti la nuit dernière à l'âge de 74 ans, emporté par le cancer du poumon qui le rongeait depuis plusieurs mois. 57 ans de carrière, plus de 100 millions d'albums vendus, 10 victoires de la musique, Johnny restera à jamais notre rocker national, l'Elvis français, comme l'appelle aujourd'hui le New York Times. Johnny Hallyday, c'était d'abord un interprète, 800 auteurs ont composé pour lui près de 1300 chansons, Mathieu Culeron.
Oui, Johnny se fait connaître en avril 1960 avec la chanson « Laisse les filles », une chanson composée par Johnny, Gilbert Guenet et Jean Setti. Ils chantent ce titre à la télévision. Le succès est immense. Mais là où l'importance des paroliers prend tout son sens, c'est avec le titre « Retiens la nuit », une chanson de 1962 qui est en fait au départ un conseil signé Charles Aznavour.
Retiens la nuit.
Je lui ai dit un jour... Tu devrais quand même chanter autre chose parce qu'il y a une autre clientèle, il y a des gens plus âgés. Tu ne peux pas chanter toujours genre souvenir, souvenir. Et il m'a dit, t'as qu'à m'en faire une. Ça a été la phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Et j'ai commencé le lendemain avec Gardarens, on a écrit la chanson. Ça a été un très grand succès.
Et à chaque période musicale de Johnny, son parolier, Éric Chardin à la fin des années 60, Philippe Labro et Jacques Lanzmann dans les années 70, et puis deux compositeurs qui vont le relancer dans les années 80, Michel Berger sur l'album Rock'n'Roll Attitude avec le tube évidemment Quelque chose de Tennessee, et l'album Gang de Jean-Jacques Goldman avec les titres Laura ou encore L'Envie. Suivra la nouvelle génération, Obispo, Miossec, Escher ou encore Cabrel, mais ce qui marque la direction artistique de Johnny depuis deux ans, c'est finalement le retour aux sources du rock. C'est le cas de l'album De l'amour, réalisé par Yodelis, et justement écouter ce que Johnny disait à propos de ses envies musicales en 2015.
Je suis arrivé à un âge maintenant, je pense, où je fais les choses que j'ai envie de faire surtout, mais que c'est vrai. La musique que j'aime, bon, c'est le rockabilly, c'est le blues, c'est la variété. Il y en a tellement d'autres qui le font bien que moi j'ai plus besoin de le faire.
C'est pas facile de se faire un beau jour lâché. Perdre prise de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol...
Voilà, De l'amour, le dernier album en date de Johnny Hallyday avec une pluie de paroliers pour l'occasion, Jeanne Chéral, Vincent Delerme ou encore Miossec. Et puisqu'on parle de retour aux sources, Johnny nous avait annoncé à cette occasion un nouvel album à venir, un album rockabilly dans l'esprit du dernier album de Johnny Cash, un album inédit de Johnny à venir donc pour les mois prochains.
Merci Mathieu Culeron pour cet hommage à Johnny. Les briseurs de silence, Silence Breakers en anglais, désignés personnalité de l'année par le magazine Time. Le journal rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont dénoncé le harcèlement sexuel dans la foulée de l'affaire Weinstein. À la une de Time, on trouve notamment la chanteuse Taylor Swift, l'actrice Ashley Judd, mais aussi une travailleuse agricole, Isabelle Pasquale. Les briseurs de silence succèdent à Donald Trump au palmarès des personnalités de l'année du magazine Time. Le temps demain, perturbé sur le nord et l'ouest, plutôt ensoleillé au sud et à l'est. La pluie arrivera au petit matin sur la Bretagne et les côtes de la Manche, avant de gagner l'intérieur des terres, de l'Aquitaine aux Ardennes. Les températures maximales sont en légère hausse, de 6 à 15 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.